France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans ce numéro d'Enquête de politique, second épisode de notre série en deux volets sur le lepénisme. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Ce soir, après le jean-marisme, disponible en podcast sur l'appli Radio France, je vous propose donc le marinisme et le marionnisme. Jusqu'à 18h35, nous allons tenter de déterminer de quelle extrême droite sont faits le marinisme et le marionnisme, quelle idéologie compose principalement la proposition politique de Marine Le Pen, puis celle de Marion Maréchal Le Pen, la situation politique du pays, l'état des rapports de force, la vague mondiale de populisme et d'extrême droite nous amène à nous demander tout naturellement ce que donnerait le Rassemblement National au pouvoir, puisque cette hypothèse est aujourd'hui des plus plausibles. Le RN au pouvoir, ce sera le sujet de la seconde partie de cette heure d'Enquête de politique avec les auteurs de Marine Le Pen présidente, c'est une dystopie politique.
Au fond, si je devais me définir, je crois que je répondrais tout simplement que je suis intensément, fièrement, fidèlement, évidemment française.
Marine Le Pen est élue présidente du Front National.
Il faut maintenant faire du Front National un outil pour reprendre le pouvoir des mains de ceux qui ont traîné notre si beau pays jusqu'ici.
Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre parti.
Ils sont sur les réseaux sociaux.
Je considère que la France ne se réduit pas à la République. Vouloir faire de la France une identité qui serait totalement consubstantielle à la République m'apparaît erroné.
Mais tout de suite, qu'est-ce que le marinisme avec nos deux invités, Nicolas Massol, journaliste à Libération et auteur de l'extrême droite Nouvelle Génération avec Marie-Lou Magal chez De Noël et Nicolas Lebourg, historien, chercheur à l'Université de Montpellier, auteur de nombreux ouvrages sur l'extrême droite et le RN, dont le dernier, Paris, Moscou, un siècle d'extrême droite aux éditions du Seuil. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, je vais commencer par vous demander une définition théorique, politique, du marinisme. Nicolas Massol, pour vous, par rapport au jean-marisme, qu'est-ce que le marinisme ?
Alors, quand Marine Le Pen prend le pouvoir sur le FN en 2011, quand elle est élue présidente du FN, elle dit vouloir reprendre le flambeau de son père, Jean-Marie Le Pen. Donc, apparemment, c'est une continuité. En fait, elle introduit des ruptures à la fois immédiatement et en même temps dans le temps. Déjà, elle rompt avec une stratégie de son père, qui est celle du compromis nationaliste, qui consiste en fait à faire vivre, faire coexister au sein du même parti, au sein du FN, toutes les sensibilités de l'extrême droite, des plus radicales aux plus souverainistes, des sensibilités qui n'ont pas forcément à voir ensemble.
On l'a vu d'ailleurs dans l'émission qui est disponible en podcast sur le jean-marisme, une sorte de syncrétisme.
Exactement.
Un peu.
Alors, exactement.
Globalisant.
Voilà, la différence avec le marinisme, c'est que le marinisme, c'est une ligne. Alors que Jean-Marie Le Pen, par exemple, tolérait, enfin acceptait les catholiques traditionnalistes, Marine Le Pen, par exemple, avec une succession de purges, petit à petit, leur a interdit toute expression politique au sein du mouvement. Il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de courant au sein du Front National sous Marine Le Pen.
On y reviendra, ouais. Mais est-ce que ça veut dire que finalement Jean-Marie Le Pen, en étant comme ça le représentant de toutes les chapelles, s'interdisait d'une certaine façon d'aller au pouvoir, parce que c'était d'être le porte-parole de toutes les chapelles, ça peut passer dans une posture tribunicienne, mais
exactement,
ça interdit l'accession au pouvoir, donc Marine Le Pen a un autre objectif.
C'est justement le pari que fait Marine Le Pen à partir des années 2010, c'est-à-dire en fait de refuser ce côté parfois folklorique de l'extrême droite. En fait, elle refuse d'assumer et de reprendre à son compte la culture traditionnelle, la culture politique traditionnelle de l'extrême droite, avec ses références historiques, évidemment, souvent liées à la Seconde Guerre mondiale, avec aussi toute une contre-société que Jean-Marie Le Pen faisait vivre dans les années 1980-1990 autour de fêtes comme la fête des bleus-blancs-rouges, comme les défilés de Jeanne d'Arc.
C'était pour avoir couvert dans ma jeunesse, quand j'étais reporter comme vous et que je suivais le Front National, la fête des bleus-blancs-rouges dans les années 90, on y trouvait tout un fatras de livres sur
exactement.
Pétain, à la gloire de Pétain, de livres antisémites, ça c'est plus possible.
Voilà, alors c'est toute une série de références auxquelles Marine Le Pen met un terme parce que justement ça va à l'encontre l'encontre d'une stratégie de dédiabolisation. Elle ne veut plus sentir un peu le soufre que sentaient un certain nombre de radicaux qui existaient au sein du FN. Donc à partir de ce moment-là, le marinisme, c'est une sorte de nationalisme en fait sous vide, une sorte de nationalisme de supermarché où en fait on ne va pas...
Voilà, votre qualificatif, vous, voilà. C'est nationaliste de supermarché.
Exactement. Expliquez. Alors pourquoi nationaliste de supermarché ? Parce que Marine Le Pen s'interdit un certain nombre de références historiques, en fait, c'est-à-dire qu'on ne parle plus trop d'histoire, on ne parle plus de la Révolution française pour dire qu'on est contre, qu'on est pour, etc. Globalement, on se limite un petit peu à parler du rôle de l'État, de l'insécurité et de l'immigration. Mais tout l'aspect charnel, en fait, du nationalisme, que prenait en charge son père et que a pris en charge Éric Zemmour, est complètement vidé.
Alors, Nicolas Lebourg, quelle est votre définition à vous ? Quel est votre qualificatif idéologique ou politique du marinisme ?
Alors, il y a plusieurs phases dans le marinisme, et surtout si on le compare avec le père, rupture et continuité. Je rebondis sur ce que disait Nicolas Massol. C'est vrai que, par exemple, on regarde la dernière campagne électorale de Jean-Marie Le Pen, il y a une introduction au programme d'une dizaine de pages qui place le programme dans la perspective historique de la nation française, dans la métaphysique de la nation. Ça n'existe pas du tout dans les programmes de Marine Le Pen qui vont directement aux faits, aux mesures proposé. Au départ, Jean-Marie Le Pen, c'est ce qu'on appelle un national-populisme. Le national-populisme, c'est un courant qui vient du 19e siècle, qui vous explique que les élites ont failli et que donc il faut un sauveur qui va diriger avec le peuple par-dessus les élites à coup de référendum. Marine Le Pen, elle prend ça. Il y a rupture et continuité. Jean-Marie Le Pen, dans les années 70 et 80, quand il refuse les qualificatifs d'extrême droite, il dit « je suis de la droite nationale, sociale et populaire ». Marine Le Pen, il n'y a pas longtemps, la dernière présidentielle, elle passe son temps à dire « mon projet est un projet national, social et populaire ». Ce qu'elle enlève, c'est le mot « droite ». Pourquoi ? Parce que pour elle, la droite, c'est l'argent. Et qu'elle ne veut pas de la droite de l'argent, parce que ce qu'elle amène dans son offre politique au départ, c'est un souverainisme et l'idée d'un État protecteur, de manière très forte. Et ce souverainisme va devenir un souverainisme intégral. On parle de culture, elle va vous dire « islamisation de l'Europe, souveraineté culturelle ». On parle d'économie, de tout ce qu'on veut, c'est la souveraineté et la solution. Mais ce souverainisme intégral, il s'avère qu'aux européennes de 2014, aux départementales et régionales de 2015... Tout le monde voit, hormis Marine Le Pen et Florian Philippot, qu'il fait perdre le vote des retraités et des cadres. Alors on arrive à ce qu'appelle Nicolas Massol, dans une formule qui est la sienne,
de journaliste,
et que je lui laisse.
Un universitaire ne peut pas la reprendre, mais bon.
Ce populisme attrape tout, effectivement, qui
le nationalisme de supermarché.
Voilà, mais
une formule qui m'a été soufflée par un universitaire dont je tairai le
nom. Ah oui, oui, ne le salissez pas.
Mais non, voilà, c'est ces étapes. National populisme, souverainisme intégral, et aujourd'hui, un nationaliste de supermarché, un populisme attrape tout.
Face aux dangers qui nous guettent et aux défis qui se profilent, je vous appelle à suivre la voie de la raison et du cœur, celle qu'ont suivi nos pères et les pères de nos pères. Voie dans laquelle son autorité sera rendue à l'État, sa souveraineté à la nation, son identité au peuple français. Je veux rendre aux Français leur pays, je veux leur rendre leur sécurité, mais aussi parce que pour un peuple, rien n'est plus porteur de discorde et de désordre que la mésestime de lui-même. Je veux leur rendre leur fierté.
Voilà, c'est un extrait du clip de campagne 2022 de Marine Le Pen. Et alors, bon, c'est plein de truisme. Personne ne peut vraiment dire qu'il est contre ce que vient de dire Marine Le Pen.
C'est exactement
la stratégie.
C'est le nationalisme de supermarché, c'est-à-dire qu'on dit effectivement, on empile une série d'évidences, de truismes, sans référence historique, sans véritablement définir ce qu'est la France, et sans exactement se situer dans une continuité politique historique. C'est là qu'à la différence du jean-marisme, le marinisme est un nationalisme d'ambiguïté. Quand on votait Jean-Marie Le Pen dans les années 80, 90 et même 2000, on savait globalement pourquoi on votait. Marine Le Pen introduit une série de changements importants au fil du temps, hein, vraiment, c'est elle n'a pas fait ça entre 2011 et 2012. Je prends le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement n'est plus remis en cause par Marine Le Pen. L'abolition de la peine de mort. Marine Le Pen ne veut pas remettre en cause la peine de mort. Et la suppression de la double nationalité, Marine Le Pen est revenue en 2022 sur ce totem frontis qui était interdiction d'avoir une double nationalité. En revanche, on voit que sur tous ces exemples, le RN est beaucoup plus ambigu que ça. Sur la double nationalité, on a vu pendant la dernière législative que c'était pas clair du tout. Sur l'IVG, le RN continue à être le parti qui a le plus voté contre l'introduction du droit à l'IVG dans la Constitution. Donc en fait, Marine Le Pen lisse son programme. Elle le met sous vide, mais c'est difficile de totalement la croire sincère au vu de ces déclarations-là.
Nicolas Lebourg, quelle est la place du marinisme dans la galaxie populiste mondiale qui est assez variée ? On le voit avec le trumpisme triomphant aujourd'hui et avec tous les exemples européens.
Le Front National et Rassemblement National a d'abord une originalité géopolitique, bien sûr, par rapport à un certain nombre. Giorgia Meloni est beaucoup plus attachée à un lien transatlantique avec les États-Unis, comme Éric Zemmour d'ailleurs, qui considère que les États-Unis, c'est un peu un instrument de la transnationalisation du monde, qu'ils ont joué un rôle important pour l'ONU, pour
et
l'OTAN.
Et ça, ça ne va pas changer avec Trump.
Pour l'Union de la Santé. Justement. Alors, on ouvre une nouvelle page qui est d'autant plus particulière que nul ne sait bien où va le trumpisme aujourd'hui, si on est tout à fait honnête. Il y a des choses qui sont très loin de Marine Le Pen. Je prends un exemple tout simple. Les thèses QAnon, qui ont tout à fait leur place aujourd'hui dans le camp trumpiste, qui consiste à dénoncer un complot d'élite pédosataniste mondialiste, Marine Le Pen considère que c'est pure dinguerie. Elle n'ira pas vers des choses aussi irrationnelles.
Il y a le rapport à l'État aussi. On a bien vu en 2016 peut-être l'erreur stratégique de Marine Le Pen. On l'a vu pendant le débat qui voulait casser les codes, vous vous souvenez, ils sont partout, enfin ces gestes un peu erratiques. Elle avait raté son débat parce que elle voulait faire un petit peu comme Donald Trump, peut-être. Il y a une erreur sociologique, le petit blanc français, entre guillemets bien sûr, qui vote pour Marine Le Pen, est attaché à l'État alors que le petit blanc, toujours entre guillemets, qui vote pour Donald Trump, déteste l'État fédéral. C'est des différences fondamentales.
Très clairement, et puis dans le discours de Marine Le Pen, et qui a été impactant, qui a réussi électoralement, donc elle a eu raison sur un plan politique, il y a l'idée que souveraineté et protection, c'est deux faces de la même pièce. Mmh. Et donc l'État ne peut pas être souverain sans protéger économiquement, et aussi sur le plan de la sécurité physique, le citoyen. Or ça, c'est très bien entendu, puisque les électeurs du Rassemblement National, pour eux, il y a une congruence. En gros, c'est la faute des personnes d'origine immigrée, s'il y a une insécurité physique, s'il y a une pression fiscale parce que ça nourrirait l'immigration avec des coûts imaginés par le Rassemblement National qui sont astronomiques et changeants selon les élections. Donc, il y a une congruence des insécurités et face à ça, une congruence de la solution par l'État national dirigé par Marine Le Pen. On est dans une perspective qui est très loin de celle de l'Argentine, par exemple. La tronçonneuse, c'est bon pour qu'Éric Ciotti amène quelques bourgeois au second tour, mais oui, c'est bon pour avoir une assiette électorale de 50% plus une voix au second tour.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec Nicolas Massol de Libération et Nicolas Lebourg, historien à l'Université de Montpellier, et nous nous interrogeons sur le marinisme, évidemment Marine Le Pen.
La laïcité recule avec la perte des valeurs de la République. Et pour éviter que renaissent dans notre pays des conflits religieux, il faut repousser la religion. Et excusez-moi de dire qu'aujourd'hui, celle qui cherche à déborder sur la sphère publique, c'est effectivement la religion musulmane. C'est et la peu, sphère publique, ouais. C'est pas seulement les services publics. Moi, je suis pour l'interdiction du voile dans la rue.
Marine Le Pen et la laïcité. Voilà aussi une nouveauté à l'extrême droite française. L'extrême droite française n'était pas du tout laïque. Hein. La laïcité, c'est la gueuse, comme disait Jean-Marie Le Pen. Alors évidemment, c'est une laïcité un petit peu étrange, puisqu'elle est un peu teintée d'identitarisme, ce qui est une sorte d'oxymore, identité et laïcité, identité ethnique en tout cas, ou religieuse. Nicolas Massol, à quel moment et pourquoi Marine Le Pen est devenue, j'ouvre les guillemets, laïque, je les ferme.
Ça correspond à un changement de logiciel, en fait, du Front National qui court sur la dernière présidentielle de Jean-Marie Le Pen en 2007 jusqu'au début de la prise de pouvoir de Marine Le Pen sur le Front National. Alors que son père, Jean-Marie Le Pen, s'inscrivait vraiment dans l'extrême droite, donc plutôt anti-républicaine, plutôt critique de la Révolution française, Marine Le Pen, elle, reprend à son compte les mots républicains, les mots de république, d'assimilation, et donc de laïcité. Plutôt que opposer à l'islam politique et même à l'islam tout court la religion catholique, qui est la religion traditionnelle française selon les gens d'extrême droite, Marine Le Pen lui oppose la laïcité. Une laïcité qui est évidemment prise dans un sens identitaire, c'est-à-dire que en France, on vit de façon laïque, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'expression religieuse dans l'espace public, ce qui n'est pas du tout la laïcité qui se borne en fait à défendre la neutralité de l'État et des agents du service public. Ce changement de logiciel est impulsé notamment par Florian Philippot, qui vient du chevènementisme et qui donc a un discours sur la République et donc un discours sur la laïcité que Marine Le Pen fait sien. Ce discours, il n'est pas le même que celui de Marion Maréchal Le Pen, dont on a entendu justement qu'elle disait que la France ne se limite pas en fait aux 2-3 siècles de République. On voit bien la différence entre une Marine Le Pen qui considère que la lutte contre l'islamisation est en fait une lutte contre l'islamisme qu'elle entend comme une idéologie politique. Ça, c'est important. Marine Le Pen le dit et le répète. L'islamisme est une idéologie politique. Je ne lutte pas contre l'islam, mais contre l'islamisme au moyen de la laïcité. Et une autre extrême droite, qui est celle de Marion Maréchal et de Zemmour, qui luttent, eux, contre l'islamisation et donc contre l'islam.
Alors, on va venir dans quelques instants à Marion Maréchal Le Pen, mais je voudrais d'abord, Nicolas Lebourg, qu'on parle de Jordan Bardella, parce qu'on parle de Marine Le Pen au pouvoir, mais peut-être que ça ne sera pas le cas et que Marine Le Pen ne pourra pas candidater. On attend d'ici fin mars la décision de justice, peut-être qu'elle sera inéligible. Est-ce qu'il y a une différence entre le marinisme et le bardellisme, si l'on peut dire? On a l'impression que le bardellisme, c'est pas grand-chose quand même.
Alors, c'est vrai que ce n'est pas un livre de doctrine qu'il a publié. On peut reprendre l'exemple de la laïcité que vient d'évoquer Nicolas Massol. Dans l'extrême droite française, historiquement, les fascistes étaient pro-laïques. C'était les réactionnaires qui n'étaient pas pro-laïques.
Oui.
Pourquoi le mot réaction, il naît à la fin du XVIIIe siècle? C'est des violences contre-révolutionnaires, en particulier dans le Gard. Mais en plus des révolutionnaires, sont attaqués les protestants. Parce qu'ils représentent une division idéologique de la nation. Et qu'on ne veut pas de division à l'intérieur de la nation. C'est ce qui nous explique la laïcité aussi de Marine Le Pen. C'est en fait un refus de la division spirituelle. La nation doit être unie. Cet aspect-là, vous allez le retrouver complètement chez Jordan Bardella. Mais Jordan Bardella va ajouter un aspect qu'il rapproche plus d'Éric Zemmour et de la génération des identitaires. C'est que cette identité, elle est aussi beaucoup plus entendue de manière ethnique. Il l'avait lui-même, dans une tribune à Marianne, fort bien expliqué, l'État est responsable de l'homogénéité de la nation à travers l'histoire et de son homogénéité biologique et culturelle.
Donc, voilà, l'homogénéité que Marine biologique, ça c'est vraiment le marqueur de l'extrême droite. Pour tous ceux qui se demandent si le Front National, ou le Rassemblement National, puisque on a vu que ce débat existait encore dans la presse française, avec cette histoire d'homogénéité, il n'y a aucun doute.
Oui, c'est le cœur de la définition de l'extrême droite, c'est ce qu'on appelle l'organicisme.
Gramsci a conceptualisé l'idée qu'avant d'espérer vaincre sur le plan politique et sur le plan électoral, il fallait d'abord vaincre sur le plan culturel. Et c'est précisément l'objet de l'école que je suis en train de monter, apporter une réponse culturelle par des conservateurs. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a une hégémonie intellectuelle de la gauche sur tous les grands leviers de pensée.
Il s'appellera donc l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, une école privée de formation supérieure financée par des mécènes et des dons que l'ancienne députée Front National Marion Maréchal a souhaité installer à Lyon. Pour l'heure, ces diplômes ne sont reconnus par personne.
Nicolas Massol et Nicolas Lebourg, nous sommes jusqu'à 19h en quête de politique et on s'interroge sur le marinisme et aussi le marionnisme, Marion Maréchal Le Pen. Là, Nicolas Massol, ce qui m'intéresse, c'est le gramschisme. L'extrême droite a décidé finalement de suivre les enseignements de Gramsci qui avait théorisé l'hégémonie politique, l'hégémonie culturelle. Marion Maréchal, par exemple, fait cette école. Parlez-nous de cette bataille culturelle menée par l'extrême droite.
Alors, la bataille culturelle et le gramschisme, qui est son nom, le nom pompeux de la bataille culturelle,
oui,
est une vieille lune d'extrême droite à laquelle Marine Le Pen n'a jamais sacrifié. Ça ne l'intéresse pas.
Il y a un vieux complexe à l'extrême droite. La gauche a gagné depuis les années 70, la bataille culturelle, nous on doit faire pareil.
Exactement.
En fait, ça n'intéresse pas Marine Le Pen.
Ça ne l'intéresse pas. Elle ne le fait pas, tout simplement parce qu'elle a connu les gens qui défendaient ça. C'est le GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne.
Ce qu'on a appelé la nouvelle droite.
Voilà, la nouvelle droite qui a théorisé ça dans les années 70 et 80, qui ont ensuite infiltré le FN. C'est Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Yvan Blot, donc, qui étaient des intellectuels et des politiques qui ont essayé de faire infuser leur vision, pour le coup, ethno-racialiste au sein du FN. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Marion Maréchal Le Pen reprend ça, elle reprend à son compte cette idée-là, en voulant créer son école.
Qui ne fonctionne pas non plus, d'ailleurs.
Son école ne fonctionne pas. Parce que, tout simplement, il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants, elle est trop affiliée à un parti, ce qui fait que les étudiants de droite, de LR, évidemment, ne vont pas étudier à l'ICEP, etc. Ça ne marche pas. Est-ce à dire que la bataille culturelle ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas une bataille culturelle à l'extrême droite?
Bien sûr, alors, que non. Il y a ce qu'on appelle la droite hors les murs, et on voit bien dans la presse, on voit bien Bolloré, la bolorisation.
Voilà.
C'est une bataille culturelle qui marche quand même.
Alors justement, ce qui fonctionne, ce n'est pas la droite hors les murs telle qu'elle a essayé sous Marine Le Pen, vraiment en marge avec Marion Maréchal Le Pen, autour d'Éric Zemmour, de Patrick Buisson, de Robert Ménard. Dans les années 2010, ils ont essayé de se structurer. Mais en fait, tout ça n'a jamais fonctionné. Ce qui a fonctionné, tout simplement, c'est l'arrivée d'un milliardaire Bolloré, qui a repris des titres de presse, des médias, et qui en a fait tout simplement des machines de guerre culturelle, de reprise des thèses de l'extrême droite. Donc ça, ça a fonctionné. Marine Le Pen a toujours considéré que créer un écosystème à droite avec des penseurs, des intellectuels, tout ça, c'était voué à l'échec, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, Marine Le Pen n'a jamais vraiment voulu créer d'écosystème ni véritablement investi son parti. Marine Le Pen n'est jamais aussi heureuse qu'à la tête de son groupe parlementaire de 89, puis aujourd'hui de 123 députés, qu'elle maîtrise, qu'elle tient. Elle n'essaye pas de faire des instituts de formation politique.
Vous nous dites qu'elle ne travaille pas ?
Si. En fait, Marine Le Pen n'a jamais aimé son parti. Elle s'est toujours construite un petit peu à contre-courant, à contre-flot, selon son expression, de son parti. Que ce soit sous le maigrétisme, quand la majorité des cadres ont choisi Maigret, elle a choisi Le Pen. Que ce soit contre les Gaulnichiens dans les années 2000, où en fait, c'est grâce à son père...
Les Gaulnichiens, c'est joli.
Les Gaulnichiens, etc. Enfin bref, la vieille garde des lepénistes contre elle. Elle a toujours eu de la peine avec son parti, ce qui fait qu'en fait, dès qu'elle a pu, elle en a confié les rênes à Jordan Bardella, qui s'en occupe un petit peu à la marge, hein, on va pas se mentir. Mais Marine Le Pen aujourd'hui travaille, mais elle travaille pour son groupe parlementaire.
Nicolas Lebourg, quand vous entendez le Premier ministre, il y a quelques jours, parler de sentiment de submersion en évoquant l'immigration, est-ce que vous vous dites que la bataille culturelle, la bataille gramscienne a gagné ?
Ça nous ramène exactement à l'origine en fait, de cette stratégie. L'origine de cette stratégie, ils citent Gramsci par coquetterie, ils n'ont pas lu Gramsci. C'est un des fondateurs de la future Nouvelle Droite, ce qu'évoquait Nicolas Massol, qui durant la guerre d'Algérie, dans une note interne à un de ses mouvements, dit « on va se rapprocher d'autres mouvements, mais on va travailler sur le sens qu'on donne aux mots. Et aux autres militants des groupuscules d'extrême droite, on va leur imposer notre grille de lecture, la façon dont on interprète ces mots. Et comme ça, ça va nous permettre de les absorber ensuite. C'est d'abord une arme interne à l'extrême droite durant la guerre d'Algérie. » De la façon dont c'est inventé. Ensuite, ça continue à se développer, et puis ça devient...
Avec le mot identité, qui change la question.
Bien évidemment, totalement.
Entre Fernand Braudel et l'identité de la France et l'identité française aujourd'hui, le mot a
changé
dans le débat.
Et donc, cette grande question, c'est la bataille sur le lexique, en particulier. Parce que, dans l'idée de Gramsci, il y a l'idée que cette bataille culturelle, elle doit aboutir à un bloc social. C'est-à-dire que vous allez faire converger des gens dont les intérêts économiques sont divergents de manière immédiate. Et c'est ça. Pour gagner une élection, surtout dans un système à deux tours, il faut prendre un grand bourgeois et un prolo et qui votent de la même manière pour vous. Et donc là, il faut représenter quelque chose. Et ça, la Nouvelle Droite l'a jamais compris. Marine Le Pen le fait bien mieux et bien plus instinctivement, sans citer Gramsci. Et donc cette question du vocabulaire est une question essentielle. Sur Monsieur le Premier ministre, les chiffres de l'INSEE sont tout à fait clairs sur la progression de l'immigration depuis le début du XXIe siècle qui est en progression, mais nullement les statistiques nous montrent une submersion. Quand on est Premier ministre de la France, bien évidemment, on doit se baser sur les statistiques produites par les services de l'État qui ont de très bons moyens.
Non, mais le mot important là, c'est sentiment. Si le sentiment de submersion existe, le Premier ministre, en tout cas, valide cette idée.
Bien évidemment. Et dans ce cas, on part dans un système de représentation culturelle. Et là, bien évidemment, vous donnez raison à votre adversaire.
C'est une bataille sur la vision du monde.
Et sur les signes. Et l'extrême droite, c'est une vision du monde et les signifiés que l'on donne aux mots. Donc, depuis les années 50, c'est à la base de sa stratégie, c'est imposer des signifiés aux mots.
Alors, l'extrême droite, c'est une vision du monde, mais c'est aussi un programme fait pour être appliqué. Merci, messieurs. Nous allons, dans une deuxième partie de l'émission, nous demander ce que donnerait l'extrême droite, le Rassemblement national au pouvoir, avec nos invités, les auteurs de Marine Le Pen, présidente, Dystopie politique.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Enquête de politique, la suite. Alors maintenant que nous avons cerné, tenté de cerner du moins le cadre idéologique, le pédigré politique de Marine Le Pen et de Marion Maréchal Le Pen, je vous propose d'envisager ce que les rapports de force et le vent de l'histoire mondiale du moment rendent tout à fait plausible, l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. C'est ce qu'on fait brillamment, drôlement aussi, mais surtout de façon très documentée et argumentée grâce à leur solide connaissance de la machine de l'État, des rouages politiques et économiques du pays, les trois auteurs de Marine Le Pen présidente, Dystopie politique 2026-2029 aux éditions Les Petits Matins, Hakim El Karoui, Guillaume Anezo et Thierry Pêche. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous jusqu'à 19h Hakim El Karoui, essayiste et entrepreneur social, et Thierry Pêche, directeur général du think tank Terra Nova. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je conseille ce livre à nos auditeurs parce que c'est une sorte de roman dystopique, donc, qui se lit très plaisamment. Et ici, on ne va pas faire l'histoire des circonstances que vous avez imaginées pour l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir en 2026. On va se concentrer sur les conditions et les répercussions de l'application de son programme. Hakim El Karoui, dans quel état d'esprit vous avez entrepris l'écriture de ce livre ?
Avec une idée assez simple, c'est que, alors qu'on sentait venir, c'était juste avant le résultat des européennes et donc la dissolution, on sentait venir le résultat colossal qu'ils ont obtenu à cette occasion, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire, de ce qui va se passer. Parce que finalement, le programme de Marine Le Pen, mais au-delà du programme théorique, politique, la réalité de ce que ça changerait, on ne l'avait pas en tête. Et donc on s'est dit, on va faire un livre. Et donc on s'y est mis à trois, à la fois en rigolant et puis en travaillant sérieusement, parce qu'on est parti vraiment de leur travail, de leurs propositions, de leurs propositions de loi, de leur programme. Et on l'a fait sans, comment dire, sans mépris, j'espère sans arrogance. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire une dystopie sérieuse.
Oui, c'est très sérieux, c'est quasiment technocratique. Alors, c'est beaucoup plus drôle que si c'était simplement technocratique, parce qu'il y a beaucoup d'imagination. Mais c'est sérieux et c'est pas caricatural. Vous n'avez pas voulu montrer une sorte de catastrophe évidente. Vous décrivez les rouages, Thierry Pêche.
Oui, la catastrophe, c'est le terme des engrenages. Mais il faut décrire les engrenages. Et donc ça se passe de façon beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on peut imaginer. Le soir de son élection, Paris est calme, la France est calme. On a tellement banalisé tout ça pendant des années que ça se passe plutôt bien, en fait. Et ce qu'on a voulu faire, c'est examiner la chaîne des causes et des conséquences qui se met en place, qui s'enclenche dès lors qu'on applique le programme. Pas tout le programme, mais une partie du programme, confronté au réel tel qu'on le connaît. 2026, c'est demain. Donc, les déficits, la dette, les divisions européennes, on les connaît. Bon. Qu'est-ce que ça donnerait de décharger, disons, les principales thèses de ce programme sur ce réel-là ? Eh bien, ça crée une série de problèmes qui, en 2-3 ans, vont devenir tout à fait considérables. Et c'est l'analyse de ces problèmes qui est au cœur du livre. Alors, on l'a fait sans faire de morale. On a voulu vraiment éviter l'indignation, le scandale, il n'y a pas une ligne qui ressemble à ça. Et c'est vrai que l'humour sert aussi à écarter ce registre militant qu'on pratique trop souvent avec le Rassemblement National. Donc là, il y a un peu une opération à cœur ouvert, ouais. du lepénisme au pouvoir, d'une certaine
parce
façon.
Parce qu'on a l'impression que depuis des années, des décennies, finalement, les programmes du Front National puis du Rassemblement National ont été faits pour passer de 10 à 20%, de 20 à 30%, pour gagner des élections, en tout cas pour remporter des bons scores, pas spécialement pour être appliqués. Or, on arrive à un niveau maintenant où on se dit, ça peut être appliqué. Alors, on va procéder thème par thème, on va pas tout faire bien sûr, on va procéder thème par thème en commençant évidemment par la politique migratoire et puis par la culture et l'éducation. Et puis on va finir, ça sera le gros morceau quand même de l'émission, par l'économie, parce que c'est évidemment par là que ça chute et on va comprendre pourquoi ça s'arrête en 2029. Vous voulez pas qu'on donne la fin qui est vraiment, je recommande à nos auditeurs de lire ce livre parce que la fin est assez édifiante, à la fois logique et très très surprenante. Mais on va commencer d'abord par le gouvernement, parce qu'il faut bien qu'il y ait un gouvernement. Alors, vous êtes un peu amusé, vous avez étudié les rapports de force, et ça donne ça. La présidente, c'est évidemment Marine Le Pen. Premier ministre Laurent Wauquiez, il sera content. Ministre de l'Intérieur, Jordan Bardella. Ministre de la Justice, ça c'est bien vu, Éric Ciotti. Ministre du Réarmement démographique, Laure Lavalette. À l'économie et aux finances, Henri Proglio. Lui succédera un milliardaire du net. À la culture, Éric Zemmour. Bon, je vous laisse découvrir la suite. On va commencer, Hakim El Karoui, par l'immigration. Les premières mesures contre l'immigration et leurs répercussions. L'engrenage.
Oui, parce que là, on est au cœur du programme. Comme vous le disiez, le programme, il a beaucoup varié. Il s'est adapté à la fois aux ambitions, à l'évolution de la société, dans une logique très démagogique. Hein, mais il n'y a pas de raison que le RN soit moins démagogue que les autres. Par contre, sur l'immigration, et au-delà de l'immigration, sur la question de la préférence nationale, là, il y a un axe, et cet axe, il existe depuis 50 ans. Il n'a jamais bougé. Et il a même été très documenté, parce qu'il y a eu, au début de l'an dernier, une proposition de loi constitutionnelle très précise qui prévoit de changer plus d'une dizaine d'articles fondamentaux liés à la conception française de ce que c'est que la vie en société.
Avec la première question, est-ce que c'est faisable constitutionnellement ? Et ça, c'est important parce qu'il va falloir s'affronter au juge.
Alors c'est tout l'enjeu de l'épisode qu'on raconte avec le Conseil constitutionnel, parce que ce qu'il propose est totalement inconstitutionnel. Totalement. Notamment parce que ça remet en cause les principes fondamentaux qui viennent de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout ça a été constitutionnalisé après la Seconde Guerre mondiale, avec un point de vue à l'époque qui était très simple, qui était « plus jamais ça ». Y compris pour le droit d'asile. Le droit d'asile, celui que tout le monde critique aujourd'hui, qui est une entrave à nos libertés, il a été constitutionnalisé après la Seconde Guerre mondiale parce qu'on avait raté l'accueil des Juifs dans les années 30. C'est ça qui est mis en cause aujourd'hui. Et c'est aussi le principe d'universalisme, celui dont on nous parle tout le temps. C'est ça qu'ils veulent remettre en cause. Et comment ils font ? Ils font une sorte de coup d'État constitutionnel. Ou en tout cas, ils essayent de le faire. Je ne vous raconterai pas les détails, mais fondamentalement, l'idée, c'est de dire on n'a pas de quoi faire au Parlement, c'est-à-dire qu'on n'a pas une majorité qualifiée suffisante. On va essayer de passer en force par le référendum. Quand ils disent le référendum sur l'immigration, ce n'est pas un référendum sur l'immigration, c'est un référendum sur les libertés fondamentales en France. Et comment ils veulent faire ? Ils veulent prendre un précédent illustre, le général de Gaulle, qui a utilisé un article de la Constitution qui n'est pas celui qui est prévu, mais qui est un autre, qui est l'article 11. Ils veulent dire, ils veulent invoquer les mannes du général de Gaulle pour dire « nous allons invoquer cet article-là, l'utiliser, et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir la question référendaire. »
Alors, on est au cœur du sujet, on va préciser les choses. L'article 11 prévoit effectivement d'organiser des référendums, et il y a une liste de sujets dans laquelle ne figure pas l'immigration. Mais il trouve un argument. Le général de Gaulle l'avait fait en 62. Depuis, on ne va pas rentrer dans les détails juridiques, il y a eu une évolution jurisprudentielle qui fait qu'on ne peut plus le faire. Et d'ailleurs, à l'époque, en 1962, tous les juristes étaient contre. Mais c'est un précédent. Et puis, il y a, Thierry Pêche, quand même, en ce moment, dans le monde entier, cette idée d'un conflit entre la volonté du peuple, la volonté des élites et même le droit, une sorte de vent illibéral qui fait qu'on peut quand même aller, en tout cas beaucoup de gouvernements et le gouvernement de Marine Le Pen tel que vous l'imaginez, décide d'aller un peu contre le droit, de jouer aux marges du droit et ça passe.
Il joue principalement contre le... Hakim l'a dit, les libertés publiques les plus fondamentales, mais aussi contre la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que vous avez dans le droit des textes qui nous engagent sur le temps long. La Constitution, c'est ça. Donc on estime que pour changer ça, il faut des règles de majorité, de procédures très particulières. Et ils essayent de s'en passer. C'est pas simplement faire passer, je dirais, de nouvelles règles sur l'immigration, faire passer la préférence nationale, faire passer une violation de la conception française des libertés publiques. C'est aussi transformer la promesse constitutionnelle. Et donc, c'est mettre fin aussi un peu à l'état de droit. Parce
écorner l'état de droit.
Il viole le Conseil constitutionnel. Au passage, c'est quand même ça qui se passe et qu'on raconte dans le livre. Le Conseil constitutionnel arrive à rendre sa décision, et même arrive par des moyens que on laissera les lecteurs découvrir, à la rendre publique, alors qu'il est envahi par des hordes de militants RN et de gilets jaunes. Mais au total, c'est bien ça qui est violé, c'est la clé de voûte de l'état de droit, le Conseil constitutionnel, notre Cour suprême d'une certaine façon.
Et ce que vous décrivez, on le voit, ça arrive dans certains pays, même en Europe de l'Est, où l'illibéralisme progresse. Alors, il y a un autre aspect...
Pardon, si je peux vous interrompre, parce qu'il y a un sujet d'actualité qui arrive, c'est le jugement du 31 mars. Marine Le Pen, vous l'avez vu peut-être cette semaine à la télévision, elle dit « je n'imagine pas être condamnée ». D'abord parce que je suis bien sûr innocente, ça personne ne croit qu'elle soit innocente, à mon avis pas elle, mais surtout parce qu'elle dit « les juges ne peuvent pas se substituer au peuple ». Donc c'est la même chose en fait, c'est cette idée, le vrai clivage aujourd'hui, c'est
peuple,
le peuple contre les juges, ouais. Le peuple contre les élites, et à la fin c'est le peuple qui a raison. Et donc ce qu'ils vont dire, c'est que vous ne pouvez pas empêcher le peuple d'obtenir ce qu'il veut, et pour ça il faut ce référendum.
Alors, il y a un autre aspect de la politique d'immigration, c'est ce qu'ils appellent la reconquête des territoires en banlieue. Et là, l'armée est mise à contribution.
Oui, l'armée est mise à contribution. L'armée, vous savez, elle n'aime pas du tout faire du maintien de l'ordre, hein, parce qu'elle considère que ce n'est absolument pas son rôle. Et là, il y a non seulement l'armée, mais il y a pire, en fait. Parce qu'il y a ce qu'il faut appeler des milices. Bon, il y a un article du code de procédure pénale qui permet de s'auto-saisir d'une situation. D'ailleurs, vous vous souvenez, c'est celui qu'Alexandre Benalla avait invoqué quand il avait fait, quand il avait fait justice par lui-même.
L'article 73 du code de procédure pénale.
Voilà.
Merci Thierry Pêche.
Il est extrêmement encadré. Et dans la dystopie qu'on imagine, ben en fait, petit à petit, il y a un acteur et puis un acteur qui est un ancien général à la retraite. Mais vous savez, il y en a un certain nombre aujourd'hui dans les mouvements d'ultra-droite. C'est la DGSI regarde ça très bien.
Le général Desjoncourt.
Desjoncourt, voilà. Ben lui, il s'auto-saisit d'un certain nombre de choses et puis il se rend compte que ben, il y a finalement pas vraiment de limite qui est mise puisqu'il y a une forme de complicité des autorités sécuritaires. Et puis petit à petit, tout cela dégénère. Et puis à la fin, d'ailleurs. Les milices privées, elles trouvent que contrôler le narcotrafic, c'est quand même pas mal. Alors évidemment, elles le font au nom de leur bon droit. Mais du coup, après, elles sont difficiles à déloger. Donc il y a plein, effectivement, c'est ce que disait Thierry.
Et apparaissent des personnages comme Ange Ferrocelli ou Ferrocelli.
Qui a une culture de la sécurité un peu particulière. Et ce qu'on démontre, en fait, c'est les engrenages. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut imaginer.
C'est ça.
C'est pas le début qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe à la troisième, quatrième ou quatrième virage, vous voyez.
Oui, et il y a d'ailleurs des réactions intéressantes aussi de la société. Oui. Thierry Pêche, la culture et l'éducation. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on est dans le domaine très symbolique de l'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la culture et de l'éducation, selon votre dystopie?
Alors, dans le domaine de la culture, il décide de faire de grosses économies. En fait, il décide de faire des économies dans 5 boîtes. Ils font un comité de la hache. Hein.
Avec des boîtes.
Ah, c'est pas la tronçonneuse qui est à la mode aujourd'hui, c'est le comité de la hache. Et il y a 5 boîtes qui sont les boîtes dans lesquelles il y a en fait les gens qui ne votent pas pour eux. Quoi. Donc les immigrés, les étrangers, les bobos des villes et des campagnes, les cultureux, on va y venir, et puis les cassos. Bon. Et à la tête du ministère de la Culture, c'est Éric Zemmour, qui décide d'en faire baver aux cultureux. Et alors, c'est assez simple. Alors, évidemment, il essaye d'exécuter un programme qui est pour partie inapplicable. Par exemple, ils essayent de privatiser l'audiovisuel public. Mais ils s'aperçoivent que personne ne l'a acheté.
Ça, c'est un chapitre qui nous intéresse particulièrement.
Voilà. Donc, ils décident de privatiser l'audiovisuel public, dont Radio France. Et puis, ils s'aperçoivent
personne n'en veut
parce que ça perd trop d'argent, si vous voulez. Qui va acheter un truc qui coûte 5 milliards d'euros par an à l'État? Donc, personne. La valeur de marché de l'audiovisuel public, elle est négative, en réalité.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éditeurs. On est très puissant parce qu'on a beaucoup d'auditeurs, mais en fait, on n'a pas de valeur marchande parce que justement on n'a pas beaucoup de publicité.
Voilà.
Et que si on avait beaucoup de publicité, on aurait peut-être moins d'auditeurs.
Alors c'est un autre problème, c'est-à-dire qu'ils disent bon, on va financer ça par la publicité, mais les autres empires, les Bolloré, etc., disent ah non, n'entrez pas sur le marché de la publicité. C'est notre chasse gardée, on ne veut pas le partager avec vous. Donc ils se retrouvent avec l'audiovisuel public sur les bras et la seule chose qu'ils puissent faire, c'est le rabougrir. Donc ils décident de baisser les budgets, ça déclenche une grève. Pendant ce temps-là, les autres médias, ceux de l'Empire Bolloré occupent tout l'espace et voient leur audience croître. Bon, c'est ça l'enchaînement des causes et des conséquences. Donc ça, c'est un premier échec. Ensuite, ils décident de casser les jambes d'une certaine façon au spectacle vivant, à tous ces gens qui ne pensent pas bien, qui ne votent pas bien, qui ne votent pas pour eux. Et tout ça a bien sûr son reflet dans le domaine de l'éducation nationale. Vous en parliez. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus l'éducation nationale, ça s'appelle le ministère de l'instruction publique et de la régénération morale en charge de la réussite des meilleurs. C'est Marion Maréchal Le Pen qui est à la tête de ce ministère. Donc ils inventent un certificat que doivent passer tous les professeurs, tous les enseignants, c'est le CAPARN, le certificat d'aptitude à partager le roman national. Mais Zemmour, au bout d'un moment, s'aperçoit que tout ça glisse un peu sur la cervelle des Français, que ça pénètre pas, il s'étonne d'entendre encore tellement de discours contre les discriminations, de discours woke, et même les notes de cabinet qu'on lui remet sont très tièdes. Donc il s'enquiert de savoir pourquoi, il convoque des conseillers qui lui avouent que si c'est un peu tiède, c'est parce qu'en fait il demande à ChatGPT de les écrire. Et ChatGPT, c'est une intelligence artificielle plutôt de gauche, plutôt woke, en tout cas sur les questions de société. Bon. Et donc le chapitre sur la culture finit sur cette déprime derrière Zemmour qui se dit qu'au fond, malgré tous leurs efforts, ils n'y arrivent pas. Quoi. Ils n'arrivent pas à changer le cerveau des Français.
France Inter, en quête de politique. Thomas
Thomas Legrand.
Enquête de politique. Nous sommes avec les auteurs de Marine Le Pen présidente, dystopie politique 2026-2029 aux éditions Les Petits Matins. Avec nous jusqu'à 19h, Hakim El Karoui, essayiste et entrepreneur social, et Thierry Pêche, directeur général du think tank Terra Nova. Hakim El Karoui, je voudrais qu'on passe à l'économie. C'est le gros morceau, je trouve, le morceau le plus convaincant et le plus surprenant, peut-être le plus didactique aussi du livre. Expliquez-nous l'engrenage, encore une fois, de la politique économique de Marine Le Pen.
Ben vous savez, c'est assez simple. D'abord, il faut voir d'où elle partirait. Et d'où elle partirait, c'est simple, c'est là où on est aujourd'hui. Donc là où on est aujourd'hui, c'est très peu de croissance. Hein. Là, on a fait zéro fin 2024. Et puis, c'est aussi un déficit abyssal, encore plus important que d'habitude.
Alors là, on est à 6. C'est déjà, vous n'aviez pas prévu ça quand vous avez écrit le livre. Vous allez jusqu'à 8 et 10 à peu près dans le livre.
Oui, mais là, voilà. Et on explique d'abord comment on arrive à 8, comment on passe de 6 à 8. En fait, c'est assez simple, parce que le déficit public est très dépendant du taux de croissance. Donc, quand on est à 1, bah, on fait déjà beaucoup, beaucoup de déficit. On est à 6. Et puis, qu'est-ce qui se passe en 2026 et puis 2027? Il y a quelques émeutes. On n'en a pas parlé. Mais ça a un impact sur l'image de la France.
Et donc, le tourisme s'effondre.
Ça a un impact sur le tourisme. Bon. Ensuite, il y a un discours, on l'a évoqué, qui a réussi à être mis en œuvre, qui n'est pas extrêmement ouvert pour les immigrés. Le problème, c'est que les immigrés, c'est à peu près 30% du BTP. Les immigrés, c'est 10% des médecins qui aujourd'hui exercent en France, qui sont nés hors de l'Union européenne, c'est 20% de l'hôpital public. Et puis, c'est aussi une tension sur le marché de l'immigration européenne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que les Allemands sont en train d'attirer tous les immigrés qui étaient traditionnellement dévolus à la France. En fait, il y a un marché de l'immigration. Et maintenant, il y a une concurrence sur l'immigration. Donc, il y a une concurrence sur les médecins, il y a une concurrence sur les informaticiens. Il y a une concurrence aussi, de plus en plus, sur les gens qui ne sont pas très qualifiés, parce que toute l'Europe en a besoin. Et donc, avec Marine Le Pen au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font ces immigrés ? En fait, ils partent. Et quand ils partent, il y a des pans entiers de l'économie qui ne s'arrêtent pas, mais ils tournent moins vite. Et tout ça, ça a un impact...
Ils sont qu'à la mine.
Voilà. Tout ça, ça a un impact sur la croissance. Et donc, vous perdez 0,8 points de croissance sur le tourisme, 0,9 sur le BTP, disons sur toute l'activité de la construction de logements. Une petite crise liée au hacking d'un établissement bancaire assez important. Et puis, vous vous retrouvez à moins 8. Moins 8 de déficit. Et en fait, comme vous avez expliqué à tous vos électeurs qu'on n'augmentera jamais les impôts uniquement pour ceux qu'on déteste pas, là, les 5 boîtes, mais les 5 boîtes, en fait, ils sont pas très riches. Donc ça va pas très loin. Et bien vous vous retrouvez face à une attaque violente, là pour le coup, des marchés financiers qui disent ils sont pas hostiles à la France, ils sont pas hostiles à Marine Le Pen. Par contre, ils ont envie d'en avoir pour leur argent. Donc ils veulent être sûrs que la France va rembourser ses échéances. Et tout d'un coup, il y a un doute. Et ce doute, il est partagé non seulement par les marchés, mais par nos partenaires. Au premier rang desquels, les Allemands, puisque c'est évidemment eux qui comptent. Et là, il y a une discussion, et puis il y a aussi, vous savez, le track record. Le track record, encore une fois, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est celui de la France. La France a
Qu'est-ce
toujours,
que le track record ?
Les engagements passés et les réalités. Les engagements passés, c'est qu'on s'est toujours trompé. En vrai, on a toujours menti de 1 point, 1,5 point, 2 points, 3 points entre nos prévisions de déficit et la réalité. Quand on est à moins 2, moins 3, c'est pas très grave. Quand on est à moins 8, ça commence à devenir très grave. Et donc là, il y a le ministre des Finances et puis le chancelier allemand qui vient voir Marine Le Pen et qui lui dit « Viens donc là, on va discuter ».
Alors avant de parler de cette discussion, ou de ne pas trop en parler parce que vous ne voulez pas qu'on révèle la fin, Thierry Pêche, quand même, ce que vous décrivez, finalement Marine Le Pen arrive au pouvoir suite à une sorte de crise de l'impuissance des gouvernants précédents. Et puis petit à petit, ce que vous nous décrivez, c'est un enfoncement dans encore plus d'impuissance. La France perd son autonomie et Marine Le Pen se retrouve pieds et poings liés avec un déficit abyssal et finalement... peu de manettes à actionner.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'au début, ça ne se passe pas si mal, quand même. Parce qu'elle a un ministre des Finances qui est Henri Proglio dans notre fiction.
Alors oui, justement, voilà. Restons, pourquoi vous avez choisi Henri Proglio, qui n'est pas notoirement d'extrême droite, qui est un grand patron que tout le monde connaît?
Non, et de fait, on ne le décrit pas du tout comme quelqu'un d'extrême droite. En tout cas, il n'est pas xénophobe, pas raciste, il est souverainiste, pas très européen. Elle cherche quelqu'un de compétent, qui connaisse bien la machine de l'État et les finances publiques. Il est là, il a de bonnes relations avec elle, il accepte le job dans la fiction, naturellement.
Je ne sais pas comment il va lire ça.
Et il lui explique.
Il a déjeuné avec elle dans un établissement très couru pour que ça se voie. Enfin, c'était quelques mois avant les élections.
D'accord. Voilà. Donc c'est plausible. Voilà. Oui. Tout est plausible dans le livre, de toute façon.
Posez-lui la question. S'il accepterait, c'est à lui de répondre. On ne veut pas le faire parler. Mais... Donc il arrive dans ses fonctions et il lui dit on va faire un plan pour économiser de l'argent. Donc on va couper un peu dans nos dépenses publiques. Alors, dans les 5 boîtes. On va taper sur ceux qui ne votent pas pour nous, qui ne votent pas bien, puisqu'on ne peut pas contenter nos électeurs en leur apportant tous les subsides qu'on leur a promis pendant la campagne, au moins on va en faire baver à tous ceux qu'ils détestent. Donc je ne refais pas la liste, les étrangers, etc. C'est une politique du ressentiment, en fait. C'est la politique de la joie mauvaise. Vous vous consolerez en regardant souffrir les gens que vous n'aimez pas.
Ce que fait Trump en ce moment, on a l'impression.
Voilà. Et Jérôme Sainte-Marie, qui est l'idéologue du régime, lui dit c'est ça qu'on veut voir aux 20h tous les soirs. Bon, donc ils font ce spectacle, mais Proglio rajoute quelque chose. Il sait qu'il y a des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires dans les comptes d'EDF pour 45 milliards d'euros. Et il dit au ministre des Finances allemand, je te promets que je vais reprendre ça pour payer les gens pour qu'ils s'en aillent. Les fonctionnaires de bureau pour qu'ils s'en aillent. Et c'est ce qu'il fait. Et ça marche pas trop mal. Donc il arrive à faire sortir plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires. Tout ça, ça permet de gagner du temps. Mais... tout le reste se met en marche en même temps. C'est tout ce qu'a décrit Hakim, c'est-à-dire toutes les fautes qui sont commises les unes après les autres et qui creusent la crise du BTP, la crise du tourisme. Et ce qui devait arriver arriva d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle est au pied du mur. Et là, elle a un échange avec son homologue allemand, le chancelier, qu'il aime bien d'ailleurs. On ne le décrit pas du tout hostile, mais il lui dit « voilà, maintenant, il faut choisir ».
Voilà, et c'est la fin du livre, et c'est le moment paroxysmique, j'engage nos auditeurs à lire ce livre, parce qu'évidemment c'est le moment de vérité, Marine Le Pen se retrouve avec les Allemands qui sont les seuls à pouvoir sauver la France, et qui proposent une solution que je vous laisse découvrir. En tout cas, je voulais vous lire un petit extrait pour que vous compreniez, chers auditeurs, le ton qui n'est pas du tout un ton acrimonieux, un ton militant. Par exemple, dans la description d'un personnage tout à fait secondaire, d'un fonctionnaire, et là je lis un extrait de votre livre, qui a fait une carrière avec la gauche, une défense rigoureuse de l'ordre budgétaire, un passage irréprochable à la Banque de France, et puis l'isolement de la retraite venue, la découverte d'Internet, un livre sur l'indépendance nationale, et depuis quelques années, jusqu'à 10 tweets par jour, dans lesquels le haut fonctionnaire, au milieu de considérations financières sérieuses, dénonçait les nazis de l'armée ukrainienne et les bellicistes de la commission qui les soutenaient, s'horrifiait des vaccins, défendait l'intégrité de l'élection du président Loukachenko. Des personnages comme ça, des situations comme ça, vous en connaissez ? Ils existent. C'est des petits personnages très secondaires qui accompagnent ce glissement, qui sont comme un petit peu l'huile dans les rouages que vous décrivez.
On n'a rien inventé. Hein. Ce personnage existe.
Vous le connaissez ?
Oui.
Vous n'allez pas nous dire son nom ?
Non.
Marine Le Pen, présidente Dystopie politique 2026-2029. Guillaume Anozo, Hakim El-Khaoui et Thierry Pech. Merci messieurs. La tornade Trump, la vague mondiale de populisme et toutes ses conséquences, notamment sur le statut de la vérité dans nos débats, il en sera question encore la semaine prochaine avec le confusionnisme. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, la documentation sonore est l'œuvre de Franck Olivard et à la technique ce soir, merci à Pauline Laverdure et à Rémi Sistiaga. Je vous retrouve dimanche prochain, donc après le journal de 18h, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.